Eh bien oui, sur les ondes de Foi FM, la radio qui croit, c'est l'heure de l'émission Parole du matin. Raymond Perron ici qui vous accueille, chers amis, qui vous souhaite la bienvenue, qui vous espère dans une forme splendide, surtout une forme spirituelle, n'est-ce pas? C'est ce qui importe. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ce matin? Ben, nous allons, encore une fois, plonger nos regards et nos âmes dans le livre de Daniel. Nous lirons une portion un peu plus longue ce matin. Nous en étions au chapitre 10. Nous reprendrons là où nous avons laissé, c'est-à-dire à partir du verset 10, et nous lirons jusqu'au verset 1 du chapitre 11. Une péricope, une portion d'écriture, un passage que j'ai intitulé « En préparation pour le combat ». Donc, Daniel, chapitre 10, à partir du verset 10 et suivant. « Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, « Daniel, ne crains rien. » Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlai et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur !» La vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent, et je n'ai plus de souffle. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis, il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage !» Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. » Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Au verset 20, Daniel se fait poser une question dont la réponse semble tellement évidente. L'apparition, l'ange qui lui apparaît, enfin le personnage céleste qui lui apparaît, lui demande « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ?» Bon. Le Seigneur, par là, par cette question, veut simplement stimuler la pensée de Daniel sur le message qu'il vient de recevoir, et il veut que le prophète en reconnaisse aussi les implications. En fait, il s'agit de la question avec laquelle notre étude de ce passage devrait commencer. Pourquoi Daniel a-t-il reçu le message de cette vision céleste? Et la réponse se trouve dans la première partie de ce chapitre. Rappelons-nous que Daniel s'était adonné à des exercices spirituels pendant 3 semaines avant cette apparition-là. Et en raison de cette patience et de cette persistance, Daniel, au verset 11, se fait dire qu'il est un homme de foi, un homme bien-aimé. Et au verset, d'ailleurs, on retrouve la même expression au verset 23. C'est la deuxième fois que Daniel se fait dire qu'il est un homme bien-aimé. Il est un élu, un choisi de Dieu. Ce qui était cependant nouveau pour Daniel, c'est le verset 12. « Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Vous voyez, cette figure céleste, s'est donc présenté à lui, à Daniel, en raison de sa prière. Il semble que Daniel ait prié pour une plus grande compréhension des plans divins. Rappelons-nous que les 62 semaines et les 7 semaines là du chapitre précédent demeuraient quand même assez floues, assez vagues dans son esprit. Quel était donc le plan de Dieu et comment cela affecterait-il son peuple? C'était pas seulement la prophétie messianique que Daniel cherchait à comprendre. Vous voyez, son esprit là s'étendait sur tout le conseil que Dieu lui avait donné. Rien, mais absolument rien de ce que Dieu lui avait révélé n'était sans importance pour Daniel. Il voulait vraiment tout comprendre, la révélation de Dieu. Et nous avons ici, chers amis, un modèle pour nous-mêmes. Toute la parole de Dieu devrait faire l'objet de notre étude. Pas seulement certaines parties, là, hein, des portions d'écriture que nous chérissons particulièrement, mais toute la parole de Dieu devrait faire l'objet de notre étude et devrait faire nos délices. Donc, ce personnage céleste s'est mis en route à quel moment? Ben, dès que Daniel a commencé à prier. Ben, s'il en est ainsi, comment expliquer qu'il a pris 3 semaines avant d'arriver? Est-ce que ça veut dire que la terre est à une distance de 3 semaines du ciel? Bien sûr que non. Daniel se voit donner l'explication au verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Ah, voilà pourquoi il a retardé 21 jours, 3 semaines. Parce que le chef du royaume de Perse lui a résisté. Mais il poursuit en disant, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Et tout juste avant de le quitter, il va ajouter ce personnage céleste-là au verset 20. Maintenant donc je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. C'est quoi ce Javan? Bon, mais c'est la Grèce, tout simplement le pays de la Grèce. Alors, le chef de Javan viendra. Et tout cela s'est produit parce que cette figure céleste est venue vers Daniel dans un but bien précis, comme il nous l'est rapporté au verset 14. « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Il semble que le souci de Daniel, donc, était de comprendre ce qui allait arriver au peuple de Dieu, ce qui allait se produire pendant la domination des Mèdes et des Perses, et ensuite de l'Empire grec, hein, de l'Empire de Javan. Et l'envoyé céleste vient donc lui révéler cela, lui révéler ce qui va se passer. Ici, c'est le chef de la Perse dont il est question. Le conflit envisagé n'en est pas un, rappelons-le, contre la chair et le sang. Rappelons-nous ce que l'apôtre Paul nous enseigne sous l'inspiration du Saint-Esprit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et c'est ce que le personnage céleste lui dit ici, cette figure céleste lui dit, le chef de la Perse. Alors le combat se déroule dans une sphère infiniment plus élevée que la terre. Qui plus est, il ne s'agit pas d'un conflit momentané. Bon, on le règle et c'est fini. Non, non, c'est un conflit qui va durer encore et encore et encore. C'est un conflit perpétuel jusqu'à la consommation des âges. Qu'est-ce que tout cela signifiait pour Daniel et qu'en est l'importance pour nous? Ben, écoutez, dans un premier temps, voyons le sens, la signification des événements. Les événements de ce monde ne peuvent pas être interprétés par les seuls canons de l'histoire, voyez-vous. Les historiens analysent les événements, ils tentent d'en tracer les causes et les effets, et c'est bien qu'il en soit ainsi. Ici, cependant, Daniel se voit introduit dans la chambre des archives célestes. Il nous faut bien comprendre que les composantes de l'histoire humaine, les circonstances qui ont cours sur cette terre, dans cette création, sont inextricablement entremêlées, tissées avec les événements dans les lieux célestes. le grand théologien, mathématicien, il a été également président de son pays, Abraham Kuyper, hollandais, écrivait ceci. Si le rideau qui cache le monde spirituel se levait, serait alors exposé à notre vision spirituelle un combat si intense que la plus violente bataille jamais livrée sur cette terre semblerait, en comparaison, comme un simple jeu. Ce n'est pas ici-bas, mais bien là-haut que le véritable combat fait rage. Notre combat terrestre n'en est que le bourdonnement. Ces choses sont bien dites. Alors, c'est dans les lieux célestes que tout se déroule entre notre Dieu, le Dieu de la lumière, et les forces des ténèbres qui luttent pour la possession des habitants de la terre. Ce n'est pas à dire que le monde céleste ne fasse que représenter un miroir du nôtre. Dans le monde céleste, le gardien d'Israël, d'ici-bas, peut combattre et conquérir le chef de la puissante Perse. Alors, la leçon que Daniel apprend ici, c'est que la guerre ultime des puissances se déroule sur le terrain d'un royaume que la plupart des gens ignorent. Voyez, ce n'est pas entre Washington et Moscou. Son point central n'est pas le Moyen-Orient. Bien sûr que nous identifions les crises de ce monde avec ces lieux-là, mais ils ne sont que le reflet du conflit perpétuel entre la cité de Dieu avec son armée céleste et le royaume des ténèbres qui cherche à tourner la direction de toute l'histoire contre Dieu et contre son peuple. Dans un deuxième temps, nous voyons l'inévitable conflit du chrétien. Les chrétiens sont inévitablement partie prenante d'un conflit spirituel. Et Daniel réalise que sa propre activité dans la prière l'a involontairement, mais inévitablement, impliqué dans cette confrontation cosmique-là, confrontation aux conséquences historiques et spirituelles à fort grande échelle, nul n'en disconviendra. Et cette implication dans le combat spirituel, ce n'est pas une option pour le chrétien. Le chrétien ne peut pas dire « oui, je m'engage dans le combat spirituel » ou « non, moi je suis un hyper-pacifiste, j'ai horreur des conflits, je reste en dehors de cela ». Ben non! Parce que c'est le nouvel environnement dans lequel l'a placé son entrée dans le royaume de Dieu. Dès qu'on entre dans le royaume de Dieu, de facto, nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur contre les forces des ténèbres. Voyez-vous? C'est encore une fois l'apôtre Paul qui va nous dire, au chapitre 1 d'Éphésiens, verset 3, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles ou dans les lieux célestes en Christ. Et plus loin d'ailleurs, dans cette même épître, il nous dit que ces lieux célestes-là sont le théâtre de la lutte contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Alors, il va sans dire que l'armure du chrétien est un sine qua non, pour sa survie dans ce conflit, l'armure du chrétien que nous retrouvons à la fin de l'Épître aux Éphésiens. Donc, Daniel avait prié pour le peuple. Il avait intercédé pour le peuple afin que ce dernier trouve grâce auprès du roi de Perse. Mais voilà maintenant que se lève le rideau. Et ce qu'il réalise, Daniel, c'est le drame. La guerre céleste qui bat son plein et dans laquelle sa prière l'a impliqué. C'est pas étonnant, avec une telle vision, de l'entendre dire, Daniel, au verset 17, « Maintenant les forces me manquent, je n'ai plus de souffle. » Lorsqu'il voit la violence de ce combat-là, de cette lutte dans les lieux célestes, il en perd le souffle. Paul, d'ailleurs, l'apôtre Paul, qui a reçu cette même compréhension des réalités célestes, envoie l'impact sur la prédication de l'Évangile. L'apôtre Paul sait très bien que lorsque nous témoignons ici du Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prêchons l'Évangile, et que cet évangile-là est reçu ou non, ce n'est pas uniquement une question limitée aux esprits humains en disant, ben, je suis tombé sur un bon gars ou une bonne femme et ils ont accepté l'évangile. L'autre, je suis tombé sur une personne pas très gentille, une personne entêtée, bon, une personne qui manque de vision et elle a rejeté. C'est pas du tout ce que l'apôtre Paul nous dit, au contraire. Il nous écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3-4, et ça explique pourquoi tant de gens repoussent, rejettent, choisissent volontairement d'ignorer l'Évangile. Il écrit, « Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Et voyez-vous, nous sommes tous à la base, depuis la chute d'Adam et Ève, nos premiers parents, nous sommes tous voilés à ce besoin de réconciliation avec Dieu. Si Dieu n'intervenait pas, ben nous serions tous ainsi, nous on demeurerait tous avec ce voile sur les yeux, et ce serait bien sûr la destruction éventuelle de nos âmes. La seule façon d'avoir commerce avec cet état de fait, avec cette réalité que le Dieu de ce siècle voile les yeux des incrédules, ben la seule façon d'avoir commerce avec cela, avec cette cause spirituelle, c'est par l'usage des armes spirituelles. Je le répète encore, 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » On voit à quel point celui qui ne regarde qu'à l'apparence des choses, celui qui ne regarde qu'à l'être humain, vit dans l'aveuglement total de la réalité. Un troisième élément qui ressort très clairement du texte, bien sûr, c'est la puissance de la prière. On y revient encore et encore, hein? Cette autre vision de Daniel vient encore mettre en lumière, donc, la puissance de la prière. Parce que son intercession à Daniel, j'espère que nous l'aurons noté, a une influence sur les événements de l'histoire. Hein? Daniel a prié et c'est ainsi qu'il reçoit sa réponse à la prière. Il met en branle toute une puissance céleste, n'est-ce pas, en faveur du peuple de Dieu. Marie, la reine d'Écosse de l'époque, est réputée pour avoir dit qu'elle craignait davantage les prières de John Knox que l'invasion des armées ennemies. C'est tout un encouragement à la prière. Il nous faut cependant noter que parler de la puissance de la prière, ça peut être trompeur. Il faut quand même ajouter deux éléments qui nous préservent d'une mauvaise compréhension à cet égard. Le premier élément, premièrement, la puissance n'est pas dans la prière elle-même, mais elle est en Dieu. Hein? On n'a pas la foi dans la foi, nous avons la foi en Dieu. La prière n'a aucune puissance en elle-même, mais elle est totalement dépendante de Dieu. Et nous avons ici en Daniel un homme qui prie en s'humiliant, en reconnaissant qu'il ne possède aucune puissance en lui-même. Il reconnaît sa fragilité et c'est ce qui l'amène à se confier entièrement à Dieu. C'est ainsi que la puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Daniel ne se présente pas le torse bombé avec arrogance en disant « puisque je prie, n'est-ce pas, je vais ébranler les fondements de la terre ». Non, il vient bien conscient de sa faiblesse. Encore une fois, l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7, écrit ce qui suit. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Le deuxième élément de mise en garde, ou si vous préférez, de clarification quant à la puissance de la prière, c'est le suivant. La seule prière qui peut prétendre à l'efficacité, c'est la prière du juste. la prière du juste, comme Daniel était un juste. D'ailleurs, Jacques, le frère du Seigneur Jésus, ou le demi-frère du Seigneur Jésus, si vous me passez l'expression, dans son épître écrit au chapitre 4, verset 7, « La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Alors, la prière, ce n'est pas un tour de magie, ce n'est pas un truc secret indépendant de notre statut devant Dieu ou de notre manière de vivre. Ce n'est pas la prière de quiconque qui a une grande efficacité, mais c'est la prière du juste. Du juste. Qui est juste? C'est la grande question de Job, chapitre 25, verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur, de dire Job? Ben, la réponse biblique, vous savez, elle est sans ambages. La seule façon, l'unique façon d'être juste devant Dieu, c'est d'être mis au profit de la justice de Dieu. Cette justice acquise par le Christ Jésus. Voyez, il est impossible pour l'homme d'arriver devant Dieu et de dire « Voici, je t'apporte, Seigneur, toute ma justice, daigne l'accepter. » La justice de l'homme, elle est comme un vêtement souillé devant Dieu parce que nous sommes des pécheurs et toutes nos actions sont empreintes du péché. La seule justice qui soit acceptable à Dieu, c'est la justice parfaite. Donc, c'est la justice de Dieu. C'est la justice du Dieu qui s'est fait homme en Christ Jésus. Jésus est venu, il s'est fait homme comme nous. Il s'est identifié en nous. Et lui, il a mené une vie immaculée, une vie sans aucun péché. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Voyez-vous, le salut en bout de ligne, là, c'est vrai que c'est par les œuvres, mais pas par les nôtres. C'est par les œuvres du Christ Jésus. Le Christ, lui, il a mérité, il a gagné la justice. Et qu'est-ce qui est arrivé au Seigneur Jésus-Christ? Au terme de sa vie, au bout de tout cela, ben, il est allé mourir sur la croix comme un criminel, comme un coupable. Il est allé porter le jugement de Dieu, le jugement que nous aurions dû porter, de sorte que si nous nous approprions cela par la foi, c'est mis à notre compte. Romains chapitre 1, l'apôtre Paul s'écrit avec enthousiasme. Romains chapitre 1, verset 16 à 17, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. » C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ensuite, il nous dit pourquoi. Parce qu'en lui, en cet évangile-là, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Est-ce que ça peut être plus clair? Chers amis, êtes-vous au nombre des justifiés? Sinon, vous êtes au nombre des condamnés. Voyez, si vous n'êtes pas venu au Christ par la foi, si vous n'êtes pas recouvert de la justice du Christ, ben il n'y a pas d'autre alternative, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre lieu pour aller vous recroqueviller, vous êtes parmi les condamnés. Un petit peu comme à l'époque de l'arche, hein? Ceux qui n'étaient pas dans l'arche étaient dans l'eau. Ça ne se négociait pas, parce que le jugement était universel. Lorsque Dieu va revenir, lorsque le Christ va revenir pour exercer le jugement final, tous ceux qui sont dans l'arche du salut de la nouvelle alliance qu'est le Christ Jésus seront sauvés, les autres condamnés. Ce n'est pas sans cause que l'apôtre Jean écrit dans le troisième chapitre de son évangile, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Dernier point qui ressort du texte, c'est que le croyant n'est jamais seul. Finalement, n'est-ce pas, la vision de Daniel nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Dans Hébreux chapitre 1, verset 14, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous décrit les anges ainsi. « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Alors, si nous sommes des croyants, si nous sommes des héritiers du salut, nous pouvons avoir l'assurance de n'être jamais seuls, n'est-ce pas, et d'avoir à notre service une pléthore d'anges. Et c'est une réalité qui nous est affirmée tout au long des Écritures saintes. On le voit dans le cas de Daniel, entre autres, pensons-y dans la fosse aux lions, les anges qui sont allés fermer la gueule des lions, et le reste. On le voit aussi les mêmes expériences pour les croyants dans le Nouveau Testament. Rappelons-nous Paul et Silas en prison, alors que les portes de la prison s'ouvrent. Rappelons-nous Pierre également, qui voit un ange venir ouvrir les portes de sa prison et le guider hors de là. Et il en est ainsi pour nous, les anges au service de ceux qui doivent hériter le salut. Chers amis, nous ne sommes jamais laissés à nous-mêmes. Et ça mérite un amen et un alléluia qui vient mettre un terme à l'émission de ce matin, qui vous revient en rediffusion cet après-midi à 14h. Entre-temps, si vous désirez nous contacter, vous savez comment faire, mais on va quand même le rappeler, vous voyez. Si vous voulez nous écrire, alors c'est AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel, vous trouverez l'adresse courriel sur le site de la station radio, foifm.com. Numéro de téléphone pour les gens ici à Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Merci, chers amis, d'avoir été là. Je vous souhaite une belle journée, tout en grâce, tout en espérance et tout en attente. Et je vous convie, il va sans dire, pour la prochaine.